Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.com.
Attends, aidez-moi! J'en peux plus!
Restez calmes, les gars. Osborne maintenant va s'occuper d'eux. Ils ont intérêt à se planquer.
Défonce la porte! Laissez-moi!
Ça va, viens! Viens, plus vite!
Vous savez ce qu'on a fait, hein? Alors les brûles. Alors, ça va, oui? Approchez encore. Vous allez voir, les ordures, ça brûle les ordures. Approchez, n'ayez pas peur. Allez, venez. Ya, ya, en enfer. Vous en verrez tous en enfer. Ya, ya, l'enfer, c'est tout ce que vous méritez. Ya! Allez, petit, venez manger un peu de bon rôti aujourd'hui, hein? tous en enfer!
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties de nos éditeurs préférés en matière de fantastique et d'horreur. Alors, on va parler de vieilles séries B de la Universal, on va parler de films d'horreur plus récent, on va parler de films fauchés aussi. Ça va être une émission sympa, on va bien rigoler, je pense, voilà, on va bien s'éclater. Mais on va avant tout parler de cinéma. Et donc, on débutera par Mother's Day de Charles Kaufman, qui est sorti il y a maintenant quelques semaines chez Rimini. Hein. On en profitera pour faire un comparatif avec le remake de 2010 signé Darren Lynn Boozman. Et j'ai envie de dire, le seul bon film de Darren Lynn Boozman, mais je n'engage pas les débats de suite. Ensuite, on causera de vieux films, vous savez, les films d'autrefois, voilà, en noir et blanc. Je crois qu'il y en a un qui a de la couleur, c'est Dr Cyclope d'Ernest B. Schoetzack. Il y aura aussi Le Monstre des Abîmes de Jack Arnold. Donc deux illustres réalisateurs, hein, quand même, hein, Schoetzack, Jack Arnold, et puis moins connu, Virgil W. Vogel, qui a signé Le Peuple de l'Enfer. Et ces trois films-là, donc ces trois séries B universales, sont parus chez Elephant Film. Et puis on terminera ce tour d'horizon par un must du cinéma horrifique, l'un des plus grand. Là, je crois qu'on peut le dire parce qu'on est toujours en train de taper, on est toujours en train de dire il y en a marre des mecs qui voient des nanars partout. Voilà, vous savez, on a défendu Star Crash, par exemple, on a défendu... Voilà. Bon, là, on peut dire que c'est un nanar. Je crois que là, on peut employer ce terme, par contre. Et on va vous parler donc de Virus Cannibal de Bruno Mattei, qui est sorti aussi chez Rimini. Et donc, pour causer de tous ces films, je suis accompagné de personnages hirsutes, étranges, voilà, de drôles de gars. Je vais bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, qui est un archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié. Pour ça qu'il est à cette table aujourd'hui. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent.
Et puis je ne sais pas s'il a entendu, je ne sais pas s'il a vu, il est nyctalope de toute façon par rapport aux pouvoirs qui lui sont conférés. Je vais bien sûr parler de l'ami loup-garou Picard, le fameux Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. et qui a la particularité, comme beaucoup de tueurs en série, d'avoir deux prénoms au lieu d'avoir simplement un nom et un prénom facilement différenciables. S'appelle-t-il Roland ? S'appelle-t-il Thomas ? S'appelle-t-il Thomas Roland ? Bon, on va lui dire salut Thomas.
Salut Gégé, salut Damien et bien évidemment bonjour à toutes.
L'équipe de Culture Prohibée remercie Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Jean-Pierre Vasseur d'ailleurs qui est le patron de Rimini et Rimini qui nous sort de derrière les fagots une galette Trauma Film. Trauma Film, voilà nos amis de la Trauma, cette mythique firme de production américaine qui fait dans le bis. Dans le biscuitage à propos politique qui envoie du lourd, voilà. Hein, Mother's Day, c'est un des plus vieux titres de la firme. Hein, c'est un film de Charles Kaufman, c'est un film de 1980. Et il raconte quoi comme histoire ? C'est simple, trois copines de fac qui décident de partir chaque année comme ça à l'aventure et qui, en 1980, hein, installent leur tente près d'une maison où vivent une mère et ses deux fils simples d'esprit, c'est peu de le dire, voilà. Or, ceux-ci ont pour habitude de massacrer les promeneurs égarés. Et les trois jeunes femmes, vont pas vraiment passer le week-end qu'elles avaient prévu, quoi.
Mother's Day s'inclut dans un style de film dont on a déjà parlé ici avec Culture Prohibée, qui est la exploitation. Donc finalement, ces films horrifiques qui utilisent les bouseux comme menace principale et qui s'en prend toujours finalement aux personnes issues de la ville. Ce qui est intéressant avec Mother Day, je ne sais pas si c'est l'objectif de base, mais aujourd'hui, je trouve qu'il fait très comédie horrifique parce que finalement, ils utilisent les codes de l'horreur, mais de la façon dont ils s'emploient à le faire, c'est drôle au final, c'est assez humoristique. Et étrangement, ça fait qu'il est incroyablement pertinent horrifiquement aujourd'hui. Et il y a des scènes, par exemple, que je trouve vraiment très drôles, notamment ce moment où une des jeunes filles part en camping, elle est dans un hôtel, et en fait, en partant, elle a un portier noir, et il fait « Waouh, tu as de la chance de partir en camping et tout », et la jeune fille lui répond c'est bientôt le week-end à New York, tu vas être tranquille toi aussi. » Et là, le portier noir se lève et s'offusque et lui crie « Mais attends, je suis un noir aux États-Unis, je serai jamais libre. » Et ce petit gag qui sort, le but, c'est de pas rire sur ce que le portier dit. Le but, c'est de rire parce qu'avec le brouhaha autour, on l'entend pas. Et le fait qu'un film des années 80 sorte une telle expression aujourd'hui, de la façon dont il le sort, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Autre truc qui est assez cool avec le film, c'est qu'il a très peu de personnages en fait qui se retrouvent en son centre et du coup c'est assez facile de suivre en soi l'action, même si les personnages en soi ne sont pas très bien définis.
Oui, c'est volontairement drôle, Damien. C'est clairement une comédie horrifique, mais c'est aussi très horrifique, Thomas, parce que par moments il y a des moments bien dégueu, bien glauque quand même, mais comme la Trauma le fait habituellement, même si là on est aux prémices de la Trauma, hein, le film est rattaché au catalogue de la Trauma plutôt après, là la société n'a pas pris son essor, c'est juste parce que c'est une œuvre de Charles Kaufman, quoi. Mais un film quand même, Thomas, qui a marqué les esprits. Moi je me rappelle quand on était plus jeune, c'était un hit de vidéoclub au niveau des films d'horreur.
De toute façon, Mother's Day, c'est un classique maintenant aujourd'hui, un des classiques emblématiques de la Trauma, et effectivement la Trauma, c'est des films qui sont drôles, mais pas uniquement. Hein. Comme tu l'as dit, Damien, ce sont des films plutôt à gauche. Lloyd Kaufman est connu, l'homme qui a repris la firme est connu pour être plutôt à gauche, très à gauche même. Donc c'est un film plutôt à gauche. Et même aujourd'hui, on peut dire que c'est un film quand même plutôt féministe. Mais c'est un film dans lequel on rigole pas tout le temps, parce qu'il y a quand même une scène de viol qui est quand même pas drôle, qui est quand même assez glauque. Et ces trois personnages là, la mère et ces deux gamins là, bon, moi ils me foutent quand même la trouille, hein. Je trouve que même s'il y a de la dérision, c'est quand même pas des mecs qui ils font pas que rire, quoi. Ils mettent aussi très mal à l'aise. On sait pas ce qu'ils font d'habitude avec les autres personnages, avec les autres personnes qui tombent dans leur filet. Enfin, si on voit déjà, le film commence très fort, hein. Commence par une décapitation et puis une torture aussi d'une jeune femme. Mais oui, c'est déjà un film très engagé et je trouve que c'est un film qui, en plus, ne fait pas forcément dans l'angélisme, parce que ces trois nanas là, elles partent camper, mais elles sont pas très respectueuses de l'environnement dans lequel elles sont. Hein. elle balance des canettes par terre, soi-disant pour pouvoir se retrouver après, etc. Mais elle pollue quand même. On retrouve tout là, toute l'impertinence de la trauma. Hein. La trauma, c'est pas seulement... comme on l'a dit, c'est une firme plutôt très à gauche et qui a attaqué toutes les firmes capitalistes, etc. Je me souviens notamment d'un film Poultrygeist, qui est quand même bien crado et qui attaque bien les chaînes de fast-food de façon assez féroce. Donc oui, c'est un film assez emblématique de la trauma et qui encore 40 ans plus tard se voit encore très bien entre le film de exploitation, entre le slasher et qui propose des personnages féminins quand même assez forts et qui en plus est assez surprenant dans la façon dont il présente les personnages et on croit que ça va être telle personne va être l'héroïne, etc. et qui finalement se révèle plutôt surprenant de ce côté-là.
Oui, c'est un film assez surprenant, mais dès le début, parce que tu racontes cette scène qui commence par une décapitation et tout ça, mais en fait, le début, c'est... ils aiment bien jouer avec les clichés. Hein. Tu rappelais aussi le côté écolo, c'est des écolos, hein. c'est des Khmer verts, comme diraient les réacs. Voilà, ils rigolent pas, les frangins, parce que Lloyd Kaufman, c'est le frangin de Charles Kaufman, le réalisateur qui a réalisé beaucoup de films d'ailleurs. Et ce Mother's Day, il s'inscrit là-dedans. On casse les clichés. Ça démarre. On voit un couple de jeunes hippies. Un peu, on va dire que c'est des hippies, hein, pour faire simple. Hein, voilà, ils sont un peu le style des hippies. Voilà, même si on est dans les années 80, donc les hippies c'est un peu passé de mode, mais voilà. Et un couple de jeunes. Et là, ils rencontrent une mamie. Et ils sont tous ensemble, en fait, à une sorte de séminaire sur le bien-être, voilà, un truc animé par un charlatan qui veut vendre son bouquin sur comment être heureux, comment tout prendre la vie du bon côté, voilà, enfin bon, voilà, ce genre de conneries. Elle propose de les ramener en voiture, sauf qu'on croit que ils veulent la braquer, en fait, la mamie, sauf qu'ils vont se faire défoncer. Parce que la mamie, elle a des enfants aussi, voilà, elle a deux enfants, qui sont un peu, il y en a un qui est un peu habillé, d'ailleurs, comme un personnage de Mad Max, qui sont des dégénérés, en fait, des produits de l'Amérique dégénérés. Ils mangent mal, il y a déjà la malbouffe, ils mangent mal, ils ont des drapeaux américains partout, ils ont des goûts de bovin. Ils écoutent de la merde, ils disent de la merde, il y a une sorte en plus de culte du corps, mais en même temps d'homosexualité sous-jacente, voire d'inceste. C'est quand même très très étrange, cette famille, elle est quand même étrange. Et puis il y a ce personnage de maman, parce que c'est Mother's Day, la fête des mères, voilà, qui est, elle, un personnage un peu flippant, parce que personnage drôle aussi, mais peut-être moins drôle. Alors, l'actrice, plus talentueuse aussi que les deux autres qui sont hyper cabotins quand même, voilà. Mais en même temps, ça va dans le style du film, quoi. Et puis, tu l'as dit, ouais, les trois personnages féminins qui sont très particuliers, et celle qui se révèle être l'héroïne n'est pas celle à laquelle on aurait pu croire. Tu as totalement raison, Thomas. Et puis, je rajouterais, moi, que c'est quand même aussi un film d'horreur dans la grande tradition de ce qui se faisait à l'époque. Alors c'est fauché tout ça évidemment, hein, mais on s'en fout qu'on passe un bon moment parce que c'est hyper rythmé, hein, ça n'arrête jamais en fait. Et il y a, parce que tu parlais de la scène de viol, mais dans la scène de viol, ils utilisent bien le hors-champ et tout aussi. C'est pas putassier, c'est intéressant. Et il y a un final qui est un final typique, voilà, de film d'horreur, quoi, qui est assez sympathique, quoi, qui est assez. Et moi je me rappelle que la première fois que j'ai vu le film quand j'étais gamin, ce final au collège, on en parlait tous, quoi. C'était vraiment le final qui nous avait scotché, quoi, en allant louer la cassette au vidéoclub, quoi. Voilà, moi je vous raconte pas ma vie, mais c'est aussi ce qui a construit notre cinéphilie, quoi. Et donc c'est assez rigolo. Et donc ce film a été remaké, mais alors bien plus tard, en 2010. Pas un réalisateur duquel on n'attendait rien du tout, puisque c'est Darren Lynn Bousman qui a signé, je ne sais plus, Saw 2, Saw 3, enfin je ne sais plus lesquels de Saw, enfin moi je suis un peu perdu dans tous ces Saw, hein, voilà. J'ai jamais été un grand fan de cette franchise en fait. Et ce Darren Lynn Bousman qui a fait aussi un truc Repo, Réseau de Génétique Opéra, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai essayé de le regarder en entier, mais je n'ai pas réussi. Et là, on n'attendait rien en fait de lui, quoi. Et ce remake de Mother's Day, eh bien, mon cher Thomas, on peut dire que ça envoie du lourd, quoi, quand même.
Ah, our boy, Danny.
Happy birthday to you, Danny boy. Danny boy.
Please, get out. Make yourselves comfortable. It's very simple. You fail to cooperate with anything I said, your husband and your friends are going to suffer for it.
Wait, what are you guys doing?
What are you doing?
Please don't do this! Please don't do this! No. Don't do this!
And remember, behave.
I can't just sit here and wait and hope for the best.
I say we do something. Punishment is never easy. It hurts you more than it hurts them.
Why do you look so scared?
It's mine.
Run him down.
No!
I'm proud of my boys. They never forget their mama. Life isn't always fair, my dear.
Vous écoutez Culture Prohibée.
If you hurt any more of my friends,
you've got a gumption. Good for you.
Le film commence fort et il ne s'arrête jamais pendant 2 heures. C'est 2 heures assez éprouvantes de personnages aussi antipathiques les uns que les autres, en fait. Hein. Quand on regarde bien le film, les personnages sont tous aussi antipathiques les uns que les autres. Alors, c'est un remake, oui et non. Effectivement, au générique, le film est marqué comme s'inspirant du film de Charles Kaufman. Mais il en prend une toute autre direction. Donc, on retrouve la figure de la mère, de cette mère qui est un peu... qui est très envahissante, qui élève ses gamins, mais de façon très exclusive. Elle leur interdit, pas ouvertement, mais elle leur permet pas de s'épanouir en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et donc, elle a trois fils et une fille, et à eux cinq, ils braquent des banques. En fait, ce sont des victimes de la crise des subprimes. Ils sont expulsés de leur maison parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et ils vivent dans un mobilhome à 5. Donc, il n'y a pas de père, hein, parce qu'il y a un prologue. Et puis, à la fin, le prologue prendra tout son sens. Hein, je ne vous raconte pas. Et donc, il n'y a pas de père. Il y a cette femme et puis ses 4 enfants. Et ils braquent des banques. Il y a un braquage qui va mal se passer. Il y a un des enfants qui est gravement blessé. Et vu qu'ils n'ont plus de communication entre la mère, les trois mômes et puis la mère n'ont plus de communication entre eux. Et ils vont se retrouver. Ils vont aller se réfugier dans leur maison. Ce qu'ils pensent être encore leur maison, mais qui n'est plus leur maison. Et là, ils tombent sur une famille bien bourgeoise, bien américaine, qui est en train de faire la fête des mères, hein, qui sont en train de fêter la fête des mères tous ensemble, 4 ou 5 couples. Hein. Et là, ça va être le carnage. Parce qu'il y a la mère qui va se pointer derrière en disant bah, « Non, vous êtes trompés, les gars, c'est plus notre maison. » Mais il y a aussi le fait que les enfants, ils envoyaient de l'argent, l'argent des braquages, à cette adresse-là, mais qu'est devenu l'argent. Voilà. Et à partir de là, ça va mal se passer pour tout le monde. Et le film est un véritable carnage. Ça ne s'arrête jamais. Ça commence quasiment tout de suite et ça ne s'arrête jamais. Alors, c'est une critique très violente de l'American Way of Life ou de la consommation, du modèle américain, de la famille. Et aussi, c'est une critique assez violente du capitalisme. On retrouve d'ailleurs, je crois qu'il y a un des Kaufman au générique à la production, il me semble. Hein.
Oui, cette critique rejoint un peu d'ailleurs un autre film qui était sorti quelques années après, Comancheria, qui parlait un peu de choses... Bien sûr, Comancheria, on n'est pas dans le même type de cinéma. Hein, okay. Voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, hein, Comancheria. Voilà, c'est un des plus grands films américains de ces dernières années. Et on retrouve ça, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, les maisons qui étaient hypothéquées ont été saisies de force à des gens qui auraient peut-être pu les payer. Et c'est un peu ça, en fait. Et c'est une famille comme ça. Donc, ils ont aussi des raisons d'être en colère. Et du coup, ce qui est symbolisé, c'est cette histoire de butin, de magot, quoi. Du coup, est symbolisé. Puis c'était quand le film est sorti, c'était aussi la grande mode du home invasion, hein, qui a connu, qui est pas un genre récent, mais en tout cas, qui à l'époque il y en avait beaucoup qui sortaient. Il y a eu Your Next, il y a eu plein de films comme ça. Et d'ailleurs, c'est un home invasion assez rigolo parce que là, en fin de compte, c'est les propres proprios de la maison qui envahissent la maison qui est censée être à eux, mais qui n'est plus à eux, quoi, mais qu'on leur a pris. Quoi, voilà. Et donc, ça donne un truc. Il y a Rebecca de Mornay aussi, qui est une actrice qu'on avait un peu oubliée, l'actrice de La main sur le berceau de Curtis Hanson, qui revient, qui ressurgit comme ça, des années après qu'on ne l'avait pas vue dans un film avec un rôle intéressant, des années à cachetonner dans de la télé et tout. Et elle se retrouve dans cette série B horrifique, ce petit film qui n'était pas destiné forcément à devenir aussi apprécié, parce qu'il est quand même apprécié d'une certaine communauté, ce film. Hein. Et là, elle donne tout, quoi. Elle est sensationnelle dans ce rôle de mère très particulière, parce qu'en plus, elle a un truc qu'elle n'avait pas. Là, physiquement, elle est très différente de la mère du Mother's Day de Kaufman. Elle est séduisante, elle a un côté séduisant aussi, un côté qui donne du coup un autre éclairage encore au film et aux relations qu'elle a avec ses enfants. Et voilà, c'est vraiment un drôle de film parce que c'est un film assez malaisant en fin de compte.
C'est vrai, comme tu l'as dit Thomas, c'est très différent de l'original. On passe de la exploitation à du home invasion, comme l'a précisé Jérôme. Pour reprendre un peu sur Darren Lee Bosman, les sauts qu'on lui doit, c'est le 2, le 3 et le 4. Donc c'est un peu celui qui a participé au changement de direction de la narration de la série Saw. On lui doit aussi bientôt Spiral, une sorte de suite et spin-off différent. Et c'est vrai qu'on n'en attend pas beaucoup, mais il y a deux films de lui que j'avais trouvé intéressants, bon, que j'ai un peu renié avec le temps, qui est Eleven, enfin le titre c'était 11-11-11 ou simplement Eleven. L'appréciable et méconnu, je trouve, Found Footage The Forest, qui parle d'une sorte de famille de Bigfoot qui s'en prend à des campeurs. Mais pour revenir sur le film, il diffère beaucoup de l'original, là où le premier cas, donc c'était comédie horrifique. Cette fois, on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais qui garde un contexte de critique de la politique. Et en fait, c'est que c'est un film qui date de 2010. Et en fait, 10 ans plus tard, le Home Invasion, c'est quelque chose que moi, j'ai vu et revu en boucle. Ce qui fait que quand j'ai découvert le film, pour moi, j'ai trouvé l'entièreté assez cliché, y compris le message du film qui reprend rapidement, enfin pas le message, mais qui reprend un peu les mêmes comportements que dans la dernière maison sur la gauche, avec si on pousse assez au bout, tout le monde peut devenir une menace. Et au final, il y a très peu de choses dans le film qui me marquent. Par contre, vous avez raison, c'est qu'il y a des scènes qui sont extrêmement dures. Mais le problème, c'est qu'avec une histoire déjà vue, ça apporte rien de plus à mes yeux.
Je suis pas d'accord, parce que c'est pas le même propos que La dernière maison sur la gauche ou quoi que ce, parce que ça parle pas de sauvagerie, ça parle d'hypocrisie, ça parle de société fondée sur le mensonge, où l'argent est roi en fait, aussi de société où ça parle d'individualisme, et notamment cette scène quand ils sont au DAB, au distributeur de billets, où il y a deux jeunes femmes qui arrivent. Et là, on voit bien que c'est un film qui parle de l'individualisme. On voit bien que c'est un film qui raconte les États-Unis, c'est le plus fort qui s'en sort, en fait. Et c'est un film là-dessus, c'est un film très nihiliste, oui, sur la nature humaine, mais c'est pas un film qui parle de sauvagerie, parce que il s'agit pas de ça dans... C'est la famille, les couples qui sont pris en otage, à part à un moment où ils essaient de se défendre, mais il ne s'agit pas de sauvagerie, ça ne s'agit pas de revenir à un état sauvage. Il s'agit de survivre et de protéger ses propres intérêts, quoi, dans une société capitaliste où finalement c'est chacun pour soi. Il y a très peu de personnages qui sont positifs. Il y a peut-être un couple un moment, dont une jeune femme survit d'ailleurs. Enfin, il y a deux, trois personnes qui survivent dans parmi les couples, mais il y en a très peu qui finalement sont décrits de façon positive.
Ouais, moi je garde quand même en tête un film très nihiliste, et aussi avec une photographie très bleutée, une esthétique un peu particulière, Moi, je suis d'accord, je suis quand même plus d'accord avec Thomas. C'est-à-dire que je le rentrerai pas dans la catégorie, même du remake d'il y a 10, de La dernière maison sur la gauche. Le remake qui est vachement bien d'ailleurs, hein, qui pour le coup est aussi un film nihiliste hein, d'ailleurs, hein, il rigole pas beaucoup, hein, mais qui, comment dire, le film là de Boozman, ça a été tellement une surprise en fait, on attendait tellement pas du tout ce film quoi, que ça a été une, quand même une claque. Et effectivement, le lien avec le premier film, il est peut-être ténu, hein, parce qu'on n'est pas. Mais en même temps, pourquoi refaire le premier film ? Enfin, je veux dire, c'est un film dans son jus, dans son époque. Et celui-là est plutôt bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect politique du film, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il s'empare d'un sujet qui est quand même pas un sujet tant abordé que ça. C'est on sort de la classique loi du talion, de l'histoire de vengeance, etc. Parce que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment. Alors, c'est un scénar de série B, hein, mais c'est une vraie critique du capitalisme quoi, et du mode de vie américain. Je suis assez d'accord avec Thomas, je trouve que c'est un film assez riche. Et même en termes de série B, je suis même assez étonné de ce que tu dis, parce que c'est un film qui n'arrête pas. Quoi. Donc on est assez happé par le film, parce qu'il y a toujours un rebondissement, c'est un film qui envoie du lourd, je trouve, quand même, même si ce n'est pas le film du siècle, ça je suis d'accord, mais c'est un film quand même qui est vraiment un vrai film de terreur, quoi. C'est un vrai film d'horreur pour moi. C'est un film d'horreur. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, des vrais films d'horreur. Moi, je vais parler d'un film là qui est un peu moins, peut-être un peu moins, allez, même pas du tout un film d'horreur, voilà, mais qui est réalisé par l'un des co-réalisateurs d'au moins deux chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma d'épouvante, le King Kong, le seul, l'original, le King Kong, et Les Chasses du Comte Zaroff, The Most Dangerous Game. Je vais bien sûr parler là de Ernest Béchotsack. Alors Ernest Béchotsack qui a eu en fait une grande carrière, hein, qui a réalisé un paquet de films aussi. C'était un aventurier, il a réalisé beaucoup de choses. Avec Thomas, on avait pu assister à une rétrospective autour de Cooper et Marianne C. Cooper, l'autre réalisateur de King Kong, et Schotzak, lors d'un festival du cinéma du film d'Amiens, quand le festival avait encore une programmation, on va dire, une vraie programmation, quoi, avec un vrai programmateur. Du coup, on avait pu la voir, tout le travail, en fait, qui était fait par... par Schotzak, c'était très intéressant parce qu'il y avait une vraie logique. Et puis il y avait ce film qui était projeté, qui donc vient de sortir là chez Elephant Film, qui était un film un peu à part dans sa filmo, puisque c'est plus un film d'effets spéciaux. En fait, c'est un film de prouesses visuelles. Alors bien sûr, il a fait des prouesses visuelles dans ses films, hein, King Kong, ça c'est des prouesses visuelles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film où quasiment tout le propos du film, c'est ça, quoi. Ce qui fait l'intérêt du film, c'est quasiment uniquement que cette histoire de personnes qui sont rapetissées en fait par un professeur fou. Ils vont voir un professeur exilé, voilà, pour essayer de travailler avec lui. Ce professeur est en fait un peu dingue. Il découvre ses secrets et il les rapetisse. Voilà, et s'engage une sorte de chasse à l'homme un peu bizarre. On va retrouver d'ailleurs des choses du comte Zaroff et tout ça. Enfin, on va retrouver un peu des éléments comme ça, confrontation avec la nature hostile, tout ça. Enfin bon, des trucs rigolos. Alors après, quand on sait en vrai combien d'insectes pullulent, ils devraient être confrontés à des milliers d'insectes. Bon, là, ça va, ils sont plutôt peinards quand même, ils ne sont pas trop embêtés. Mais bon, la prouesse est assez chouette. Et il y a ce technicolor verdâtre là, un peu étrange, qui donne une certaine tonalité plastique au film, qui n'est pas le meilleur film de Schotzak, mais qui est une belle curiosité, Thomas.
Tu as raison, c'est un film qui vaut surtout pour ses prouesses techniques, hein, ses effets spéciaux, qui pour l'époque sont quand même bluffants. Hein. C'est quand même, on y croit. Bon, bien sûr, on voit que c'est des effets spéciaux, on voit que, mais on y croit. Je veux dire, ça marche bien, ça fonctionne bien. On y croit beaucoup plus qu'à certains effets spéciaux récents. Hein. Mais bon, le film est un peu plat, moi je trouve. Hein. Je trouve qu'au niveau de la mise en scène, il y a une mise en scène très théâtrale. Hein. La caméra, elle filme de front. Il y a même un moment, il y a un personnage, il va se cacher dans le fond du décor comme au théâtre. Donc je trouve que le film au niveau de la mise en scène, il est quand même un petit peu plat, et que bon, c'est vrai que c'est surtout un film qui vaut le coup si on est complétiste de Ernest Bischoutzak et pour les effets spéciaux.
On est tous d'accord là-dessus, les effets spéciaux sont vraiment très réussis. En tout cas, à aucun moment ils ne trahissent le film. J'aime bien aussi la couleur qui est employée parce que ça crée, ça participe justement à cette différence entre le professeur qui est grand et eux qui sont petits. J'aime bien aussi la caractérisation en soi de Dr Cyclope, qui en fait dedans s'appelle le Dr Torkel, parce que il a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que quand on l'introduit, il s'en prend à son premier collaborateur, et en fait la deuxième fois où justement il va rétrécir les gens, c'est parce qu'ils ont découvert qu'il avait mis la main sur un stock d'uranium, et ils vont s'en prendre à lui pour en fait pouvoir récupérer l'uranium et pouvoir s'enrichir avec. Et c'est intéressant parce qu'au départ on nous le présente immédiatement comme un méchant, et dans la situation où il est rétréci, c'est plus qu'il fait ça pour en fait se protéger et pouvoir continuer ses recherches, même si ensuite il part pas forcément dans la bonne direction. Et juste pour évoquer le titre que je trouve bien choisi, parce que immédiatement on fait le lien avec justement Ulysse et l'histoire du Cyclope qui est légèrement différent ici, mais qui garde la même idée.
Alors oui, cet acteur qui fait le savant fou là, hein, c'est Albert Dekker, qui est vrai qu'il était qui est plutôt bien dans son rôle. Les autres acteurs sont un peu plus fades. La starlette du film, si j'ose dire ainsi, elle a une particularité, c'est Janice Logan. Et elle était surnommée, en fait, son surnom, c'était Madame Parfaite. Elle était surnommée Madame Parfaite, c'était son nom quand elle était mannequin. Parce qu'il paraît que voilà, ses mensurations étaient parfaites, c'est-à-dire que ça correspondait à un idéal féminin à l'époque aux USA. Donc c'était son surnom, Madame Parfaite. Bon, par contre, comme actrice, c'est pas Madame Parfaite. Elle est effectivement, on la remarque pas beaucoup dans le film. Mais je suis assez d'accord avec vous, les gars. C'est les effets spéciaux qui emportent le morceau dans ce film, où on retrouve, comme l'a dit Thomas, pour les complétistes de Schotza, quelques-unes de ses obsessions pour le gigantisme. Bon, là, c'est inversé, mais enfin, bon, voilà, chose qu'on voyait chez, par exemple, dans King Kong. Autre metteur en scène très très important, c'est Jack Arnold. Alors Jack Arnold, c'est l'étrange créature du lac noir. Hein. C'est un réalisateur monstrueux, c'est l'homme qui rétrécit. Bon, voilà, grand réalisateur de SF, de fantastique. Et là, Elephant Film nous propose Le Monstre des Abîmes, qui est l'histoire d'un professeur, le professeur Donald Blake, qui reçoit un spécimen de colacanthe particulièrement bien conservé. Malheureusement, il va se passer toute une série d'incidents autour de ce colacanthe. On va se rendre compte que, en fait, ce colacanthe, il perd un certain poison, en fait. Voilà, il ne faut pas qu'on le touche, il ne faut pas qu'on se laisse approcher. Et ce colacanthe, en fait, il est dangereux parce que je crois que c'est son sang qui a en fait un poison. Et il se trouve que bon, on va s'en rendre compte parce qu'il y a un chien qui traîne par là, le chien d'un ami du professeur qui va laper ce sang, en fait, enfin ce qui coule en fait du truc de glace, des pains de glace dans lequel on a ramené le colacanthe, et qui va devenir très agressif. Et le professeur va se mettre du coup à faire des expériences et à lui-même s'injecter ce poison. Et il va se transformer en monstre. Alors on dit le monstre des abîmes, hein, voilà. Il va se transformer en monstre. Et ça va faire un peu de dégâts. Alors voilà un film qui est pas pour moi, c'est pareil, c'est pour les complétistes de Jack Arnold, qui est pas le meilleur film de Jack Arnold, mais quand même un film vachement intéressant. Bon, déjà parce qu'il a des visions assez étranges. Je pense à cette libellule géante, par exemple. Il y a des moments un peu étranges dans le film. Et puis surtout,
c'est un film, et ça c'est expliqué, mais fait très rapidement, il revient dessus très rapidement par Jean-Pierre Dionnet qui présente les films. Ce Monster on the Campus, en fait, c'est un film très étrange, parce que là, le réalisateur de Tarantula, il choisit quand même de faire de son personnage une sorte de junkie, en fait. Parce qu'il est, il n'est pas obligé de s'injecter ce poison, il n'est pas obligé de... Qu'est-ce qu'il cherche ? C'est quoi l'expérience ? Où il veut aller avec ça ? Voilà. C'est assez étonnant, en fait. Il n'est pas monstre contre son gré, il pourrait arrêter l'expérience, mais il décide de la continuer. Donc du coup, ça, moi, je trouve que ça ajoute un petit plus au scénario de cette série B, ma foi, fort efficace. Film de monstre, voilà, grandement bien troussé par l'ami Jack Arnold.
I say that if you were injected with this, you'd revert to a primitive anthropoid, physically as well as mentally.
One scientist dared investigate the incredible phenomena. How a pet dog reverted to an antediluvian wolf.
Look at those teeth. That dog is a throwback.
How a simple dragonfly had become a winged monster of a species extinct for millions of years. Now, before your very eyes, see a man revert to a half-human anthropoid from the dawn of creation. A monster leaving behind a trail of death and destruction.
Oh, it's impossible. Nobody's got a footprint like that. I'll rest when I find the killer.
That's not your responsibility. That belongs to the police.
Madam, I know what I'm doing.
Even he did not suspect the incredible truth. Neither did the police, nor the girl coming to keep a lover's rendezvous.
Vous écoutez Culture Crew.
C'est quand même un film assez naïf, je trouve, avec une morale tout aussi naïve. Mais bon, c'est pas le meilleur Jack Arnold, mais par contre, il y a des choses que je trouve très bien dedans, notamment la direction de la photographie de Russell Metty. Alors, les visions nocturnes, les scènes nocturnes sont très très belles, et notamment, je pense à une séquence où on découvre un cadavre d'abord fugitivement. C'est-à-dire c'est le premier cadavre qu'on trouve, en fait. On le voit d'abord fugitivement au fond du plan. Ensuite, on le découvre de façon plus détaillée. Et je trouve que là, il y a un travail de mise en scène qui est vraiment bien associé à cette direction de la photo de Russell Metty, qui joue très bien aussi sur les ombres, sur les clairs obscurs, dans les scènes nocturnes. Après, moi, je trouve que le film est un peu plat. Et surtout, ce scientifique, là, j'y crois pas du tout. Ce scientifique qui manie ce poisson préhistorique sans gants. Donc il le prend par la gueule là, il met sans gants, il l'a baigné dans de l'eau dégueulasse pendant je sais pas combien de temps, et il le manie sans gants, je veux dire, c'est quelle espèce de scientifique c'est. Et après, il s'est coupé, et puis plutôt que de se désinfecter, à l'heure des gestes barrières, je vous le rappelle, hein, plutôt que de se désinfecter, il suce sa plaie. Je veux dire, le mec, c'est quoi ce scientifique à la gomme, quoi ? Je veux dire, il aurait pu être dans le film de Barnaria, Sold Up. C'est ce niveau-là. Donc, moi, je trouve que le film, il est un peu, plutôt moyen. Et bon, en même temps, il est court. Hein. Donc, mais ce n'est pas le meilleur Jack Arnold. Mais rien que pour ces quelques séquences et la direction de la photo de Russell Metty, il vaut quand même le déplacement. Puis aussi pour les complétistes de Jack Arnold aussi.
Et pour la libellule géante, n'est-ce pas, Damien ?
En tant que scientifique, pour le coup, Thomas a raison, il est vraiment pas terrible. Et au niveau de ce qu'il y a en tant que protection ou barrière, c'est une grande honte, on va pas se mentir. Donc oui, on se retrouve avec ce poisson qui a des propriétés et qui donne une réaction chimique qui, selon le docteur, fait reculer tout le monde à un certain état, notamment la libellule qui devient énorme, puis... un peu plus tard rétrécit. C'est un film très sympathique qui se lève facilement regarder. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez tilté là-dessus, mais pour moi, c'est simplement une réécriture de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait, qui est juste réactualisée pour le film. Et en soi, si on le prend avec cette vision-là, même si ce n'est pas terrible, je trouve que c'est une réécriture qui fonctionne énormément. Et je trouve qu'en fait, avoir choisi le milieu universitaire pour parler finalement de ça, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que de base, donc, le scientifique va se transformer par accident à quelques reprises. Ce qui est assez drôle, comme il le dit lui-même, c'est compliqué de croire que deux accidents peuvent arriver de suite à suite. Et en fait, s'il se pousse à s'injecter justement ce produit, c'est parce qu'il veut prouver qu'il a raison. Parce que personne ne le croit quand il dit qu'en fait, son poisson a des propriétés chimiques qui ramènent les animaux à un certain état, animaux et bactéries, donc on suppose également les plantes, et il veut prouver aux autres qu'il a raison, et en même temps, s'il leur prouve qu'il a raison, il se met en danger parce qu'on recherche quand même quelqu'un pour meurtre.
Il suffisait qu'il fasse des expériences sur un rat de laboratoire pour que ça fonctionne, enfin voilà, c'est... Voilà. Bon après moi, toutes ces incohérences me gênent pas beaucoup, comme vous l'avez dit, c'est un film qui a un charme naïf, c'est une série B, voilà, d'époque, comme il s'en produisait, et voilà, pas mal. On sent que Jack Arnold, il fait un film assez court, rythmé, parce qu'il sent bien que c'est pas son meilleur scénar, effectivement. Mais c'est plutôt sympathique. Autre film qui prend beaucoup de liberté avec un certain métier, d'ailleurs le métier d'archéologue. Je me tourne vers Damien, hein, donc, qui est archéologue de formation quand même, donc on va un peu rigoler là. C'est un film de Virgil W. Vogel, avec John Agar quand même, un film de 1956, qui est « Le peuple de l'enfer ». Qui raconte comment une équipe d'archéologues, alors par le hasard d'un séisme providentiel, découvre un chemin menant vers les profondeurs de la Terre. Et au cours de leur périple sous Terre, les scientifiques vont découvrir une antique et cruelle civilisation humaine qui a réduit en esclavage une espèce d'humanoïde inconnu, les hommes taupes.
Gentlemen, we are in the 3000 before Christ. Ou, dans notre langue, messieurs, nous sommes à présent en 3000 avant notre ère. C'est avec cette phrase que nos héros atteignent finalement cette population sumérienne qui est cachée depuis presque 5000 ans sous terre, population qui est issue donc de plusieurs générations de sumériens, et heureusement ils parlent anglais, sinon ce serait assez compliqué pour nos personnages de se faire comprendre. Donc c'est à nouveau un film naïf avec des archéologues très mal faits, avec un petit côté spéléologue assez sympa. Il y a quelque chose qui ressort assez vite du film et qui marque, c'est sa lumière que je trouve extrêmement bien utilisée tout au long du film et qui donne des plans très jolis. Il y a aussi l'introduction très particulière du film qui commence par un docteur qui nous présente les différentes théories qu'il y a eu à travers à quoi peut ressembler l'intérieur de la Terre, et c'est intéressant parce que la personne est docteur, mais dans les titres qui apparaissent, elle est présentée en tant que professeur d'anglais, donc c'est quelqu'un lié à la littérature et non à la science. Mais cette introduction atypique, en fait, annonce dès le départ un film qui va en fait plus se poser, enfin dont le point de départ est en fait plus qu'on peut approcher d'une théorie pseudo-scientifique ou de théorie du complot, et ça lui donne un charme incroyable à partir de ce moment-là qui se poursuit plus ou moins à travers le film.
L'idée du professeur qui présente c'est quand même un gimmick assez utilisé en fait dans les films de l'époque, c'est quand même pas mal utilisé. Il y a eu les années 30-40, il y a beaucoup de voix off, beaucoup de personnages qui présentent pour donner une sorte de véracité. Ça va marcher dans le polar aussi, hein. On retrouve ça voilà, dans pas mal de séries B, et puis ça permet d'atteindre les 1h20 quoi, un peu pour faire la séance au cinéma quoi. Ça permet d'être dans les timings. Alors tu parlais de la photo, alors oui, la photo est belle. Il faut savoir que c'est les mêmes équipes quand même qui travaillent sur des productions beaucoup plus classieuses. Seulement là, bon ben voilà, on leur dit vous nous faites ce film là pourtant, du coup ils se débrouillent. C'est Bud Westmore quand même au maquillage. Bud Westmore, c'est pas n'importe qui, hein. Et puis surtout, il y a comment dire, le John Agar dans les rôles principaux, qui est un acteur assez culte, hein, qu'on a vu justement chez Jack Arnold, et qui là a quand même une arme incroyable, une lampe torche. Hein, une lampe torche pour... enfin bon, j'en dirai pas plus, faut que vous voyez le film. Et puis, dans l'équipe technique, il y a quand même Russell Gossman. C'est quand même le directeur artistique du Spartacus de Kubrick. Voilà. Bon, là, c'est Matt Painting, il est moins inspiré que sur Spartacus, mais je pense qu'il a beaucoup moins de sous. Donc, en fait, je trouve que ça donne un confère un charme au film. C'est comme les maquillages de Bud Westmore, effectivement, sont un peu kitschounés aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais le film garde quand même un certain charme, hein. Déjà un bon sens du rythme. Et puis, c'est quand même tourné, pour un film tourné avec 3 francs 6 sous, c'est 300 000 dollars, hein, le budget de ce film. C'est quand même ridicule, hein. Même à l'époque, 300 000 dollars, c'est ridicule. Et puis, c'est la découverte d'une starlette, Cynthia Patrick, qui fait un magnifique morceau à la gratte à un moment, dans un moment romantique absolument kitschouné, voilà, qui est le genre de moment qui me fait beaucoup rire. On osait tout, voilà. Fallait que la série B, fallait aussi qu'elle ait sa petite chanson. On sait jamais, hein. Ça aurait pu faire une petite chanson qui peut fonctionner après tout, quoi. Et c'est pour moi, c'est un film où surtout John Agar dans les acteurs, d'ailleurs, emporte le cachet par rapport aux autres. Mais c'est une série B fort sympathique quand même. Culture prohibée. Nous allons continuer dans les films à petit budget, à tout petit budget. Là, on va être plutôt sur du 300 000 lire, je pense. Voilà, on va vous parler d'un film, mais je l'aime bien, hein, ce film. Hein, voilà, parce que voilà, c'est, j'aime bien ce réalisateur, j'aime bien ce film, j'aime bien surtout 3 films de lui, dont celui-là. Les 2 autres sont Les Rats de Manhattan et RoboWar. Et oui, vous avez deviné, je parle de Bruno Mattei. Et oui, Bruno Mattei, le seul, l'unique, l'ami des stock shots. Voilà, Bruno Mattei, le roi du raccord foireux, parfois trahi par des VF calamiteuses. Mais c'est pas grave, ça rend le film tellement plus drôle. Je veux bien sûr parler de Virus Cannibal qui ressort. Alors ça, c'est un mystère, par contre. C'est un mystère pour moi, par contre, que Virus Cannibal ressort dans un superbe master en restauré, en Blu-ray. C'est un mystère. Ça veut dire quand même qu'il y a des mecs qui se sont pris la tête pour faire un master numérique HD de ce film, qui est quand même pas... Voilà, il y a des grands films dans l'histoire du cinéma qui n'ont pas eu le droit à ça, mais lui, il a le droit à ça. Eh bien, tant mieux, du coup, on va en profiter. C'est la revanche des amateurs de cinéma bis, et même là de cinéma Z. Voilà. On nous a rionné pendant des années avec notre VHS, les productions du Tigre. Eh oui, Virus Cannibal. Moi, je me rappelle avoir fait découvrir Virus Cannibal à ma femme. Elle est toujours avec moi. Ça doit vraiment vouloir dire qu'elle m'aime, parce que maintenant, ça fait 20 ans que je lui ai fait voir. Voilà. Je me rappelle sa consternation, et moi, j'étais mort de rire. Voilà. Donc... j'ai adoré, voilà, j'adore ce film, qui est un film de zombies en fait, où un commando décide d'aller, un commando de branquignoles, accompagné d'une journaliste, et charmante d'ailleurs au demeurant, et ils décident tous ensemble, eh bien, d'aller. Alors charmant, c'est important, hein, parce qu'à un moment, pour rentrer en communication avec une tribu dans la jungle, ils décident d'employer une technique qui est quand même incroyable. Alors l'archéologue qui est là pourra pas me dire le contraire, je pense que c'est la meilleure des techniques. C'est-à-dire, la fille se met toute nue, puis on lui badigeonne des trucs sur les seins, et puis elle avance dans la brousse comme ça, en braillant des trucs, dans la brousse italienne, hein, parce qu'aujourd'hui, on a quand même, malgré des stock shots d'ailleurs, avec des gerbilles et des kangourous, on se rend bien compte qu'on n'est pas en Nouvelle-Guinée. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et tout ce petit monde-là, bien sûr, a tout ça part d'une usine malfaisante où un virus s'est répandu. D'ailleurs, l'ouverture du film... c'est magique. Alors déjà, on se dit, mais putain, je la connais, cette musique. Bon, c'est normal, Mattei, il a repiqué la musique des Goblins. Les Goblins, c'est un super groupe. On va leur piquer la musique. C'est la musique du film de Romero sur les zombies. Ben, tant mieux, comme ça, tout le monde connaît, et puis tout le monde l'aime bien. C'est un carton, en plus, la BO s'était vendue à des millions d'exemplaires, voilà. Et là, hop, tout à coup, il y a des scientifiques. Alors, des scientifiques qui ressemblent plutôt à Thomas et moi qu'à des scientifiques, en fait. Hein, mal engoncés dans des combinaisons un peu étranges, voilà. Alors, je vous dis tout de suite, on a bien des gueules de cinéphiles qui ont passé des heures à regarder des films bizarres, mais on n'a pas trop des gueules de scientifiques. Alors, je ne sais pas si ça existe, une gueule de scientifique, mais en tout cas, au cinéma, on ne nous filerait pas les rôles de scientifiques, ça c'est sûr. Et donc...
Si, chez Bruno Mattei.
Chez Bruno Mattei, voilà. Oui, mais moi, j'ai envie de travailler à un temps payé, Thomas, t'es gentil. Donc, alors, du coup, tout à coup... Ils sont dans leur usine, comme ça, et là, le type ramasse un rat. Il fait « Wow, c'est quoi ce rat, là ?» Il a l'air de dire « Mec, dans mon usine, il n'y a pas de rat, quoi. » Bon, ça peut arriver quand même, mais bon, visiblement, ça le choque vachement. Alors bon, comme tout scientifique, il le prend dans les mains, brûlé à des gants. Tout à coup, c'est le premier, ça, c'est un grand moment de l'histoire du cinéma, le premier rat zombie de l'histoire du cinéma. Car le rat se réveille. Alors, on voit les deux mecs complètement terrorisés, alors qu'il le tient dans la main. Il suffit qu'il lui claque la gamelle par terre, et puis il n'y a plus de rat. Hein. Il est explosé, en fait, hein, le truc. Hein. Il presse avec sa main, il n'y a plus de rat. C'est fini, quoi. Je veux dire, c'est terminé. Mais c'est pas grave. Et là, le truc arrive à rentrer sous sa combinaison inviolable. C'est bon, pourquoi ?
On ne sait pas comment.
On ne sait pas comment. D'un coup, il est en dessous. Voilà, il est en dessous, il est dans sa combinaison, comme ça. Et là, il est en train de le tuer et tout. Et c'est le début d'une horrible invasion. Et comme ça, on peut enchaîner sur une prise d'otage par des terroristes. Bon, donc on ne sait pas trop hein, quelle est leur, quand même, leur obédience politique.
Ah bah, c'est plutôt des Amish, hein, selon la version.
Oui, c'est des, Macron. C'est des terroristes Amish verts. Oui, teintés verts. Ouais.
Mais t'as oublié un truc, hein, c'est qu'à un moment, les responsables de l'usine se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur usine. Ils vont dans l'usine, sans protection ni rien de tout ça, ou à peine. Et puis il y en a un, tout d'un coup, on voit un zombie arrivé derrière un mec, il commence à le mordre à l'épaule, puis le mec fait... Alors, tout ça, c'est artistique. Hein. Le mec, il fait un mouvement en arrière. En faisant un mouvement en arrière, il enlève son masque. Ça fait très Ed Wood, quoi. Tu vois, genre, le mec, il se bat avec une pieuvre qui est un pieuvre en carton, qui bouge pas du tout, qui bouge les tentacules lui-même avec ses bras. Et c'est exactement le même truc. Et puis les autres, ils regardent. Ils ont pas l'air d'être plus choqués que ça. Puis ils bougent pas, ils courent pas, ils s'affolent pas. Et il y a plein de plans sur les mecs qui regardent.
Bon. Ah mais, comment dire ? Moi, bon, Thomas, c'était pas une découverte pour toi et moi. Ce film, on l'avait vu et revu. Voilà, il fait partie de notre culture cinéphile. C'est un film qui est complètement autre, qui est venu d'une autre planète. Parce que si on aime tant ce film aussi, c'est parce que c'est pas qu'un... C'est un plagiat éhonté de quasiment 20 ans de cinéma, 30 ans de cinéma. On retrouve Singing in the Rain, on retrouve Orange Mécanique, on retrouve des répliques extraordinaires. Ben voilà, on n'a pas le droit de tuer des hommes, c'est pour ça que je vais te tuer, par exemple. Réplique magique. Ou alors, quand les zombies arrivent, mais il faut viser la tête. Mais oui, tout le monde sait qu'il faut viser la tête. T'as vu les films de Romero, merde, faut viser la tête, quoi. Putain, ils le disent dedans. Voilà, t'as plein de moments comme ça. C'est... Mais en fait, c'est jouissif. C'est hyper rythmé. C'est-à-dire que il aime quand même son spectateur. C'est hyper rythmé, c'est hyper gore. Au plus, on voit la fille, bon, on va la mettre toute nue, hein, parce que quand même, il faut qu'on la voie toute nue. Hein. Et puis les mecs, eh ben, on va leur faire exploser des gars. Et puis là, tu me mets des stock shots avec des éléphants, il faut qu'il y ait des animaux aussi. Il faut qu'on voit que là, il y a du level, quoi, les mecs, il y a de la thune. Quoi. C'est
la guitare électrique.
Ouais, la guitare électrique, mais c'est... Voilà. Mais non, c'est... Il y a un côté naïf, comme ça, je veux dire, aussi... Et qui fait que c'est quand même, malgré tout, ça ressemble pas... Je le dis, il se fout pas de la gueule du spectateur, en vérité. C'est-à-dire qu'il lui en donne pour son argent. C'est loupé, c'est foiré, les acteurs sont pas dirigés, les dialogues sont nasbrock, enfin tout ça, voilà. Mais, malgré tout, c'est hyper rythmé, il se passe tout le temps un truc. Bon, la musique des Goblins est vachement bien, elle a pas trop été faite pour ce film-là, mais c'est pas grave. Et puis, il se permet tout, Mattei, voilà. Jusqu'au final, à coup de langue, qui est quand même quelque chose aussi d'assez extraordinaire, il fallait oser, quoi. Voilà. Je sais que Damien... Alors, Damien, en fait, il nous regarde à travers sa vitre, comme ça. Parce que là, on enregistre geste barrière. Hein, on a des vitres, des masques, machin, tout ça. Et c'est assez drôle parce que je me rappelle d'un échange que j'avais eu avec Damien par rapport à une précédente émission où je viens de voir mon premier film bis italien en me parlant d'un film de guerre italien. Et moi, je savais qu'il allait voir Virus Cannibal. Et je me disais... Et parce qu'il nous avait dit, maintenant, je sais ce que c'est que le bis italien. Et moi, genre là, je lui ai dit non, parce que t'as pas encore vu Virus Cannibal. Et bien maintenant, Damien, tu as vu Virus Cannibal.
C'est un excellent nanar quand on est entouré des amis, qu'il est 2-3 heures du mat, qu'on a une bière à la main. Mais quand on veut faire un travail qui essaye d'être studieux comme le mien et qui regarde le film à 17 heures pour essayer d'avoir l'esprit clair et avoir suffisamment d'énergie après le goûter pour le faire et qu'on prend le film sérieusement, et ben...
Non, Damien n'a pas 8 ans, mais il mange toujours des goûters. Voilà, on peut manger des goûters après à 25 ans, quoi. Merde, faites pas chier.
Mais du coup, je me suis retrouvé devant ce film et c'est vrai, pour moi, l'action qui s'est déroulée, je pense que si je le remette maintenant bien entouré, ce sera bien, mais en temps de confinement, tout seul devant, j'ai juste piqué une énorme colère. Alors, truc qui est assez intéressant, dans le précédent film de Bissien que j'ai vu, Les 7 Bérets Rouges, une partie de l'action était liée justement à une journaliste française qui était justement prise en otage par une tribu. Et ici, on a encore affaire à une journaliste qui est présentée comme une journaliste française de base. Donc, je trouve ça intéressant que les deux films qui communiquent pas se répondent. Et oui, tu l'as dit, il faut viser la tête pour tuer les zombies, on le sait depuis longtemps. Mais le truc qui est intéressant dans le film, c'est qu'à chaque fois qu'il se retrouve face à des zombies, il le répète qu'il faut tirer dans la tête, et à chaque fois, il ne tire pas dans la tête. La première réaction, c'est de canarder aux alentours. Et avec le temps, c'est vrai que moi, j'ai commencé à péter un câble devant ce film.
La la, papam, papam, la la, papam, la la, papam, papam, la la la, papam, papam, tsam, tsam, la la la.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, I'm happy again. I'm singing and dancing in.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.